Bien, allez, vous avez 20 minutes pour vider votre sac.
Alors, je crois que Luc, s'il est là, oui, il est là, voulait intervenir sur la fin de notre dernière question, hein, sur le niveau pertinent, et en même temps, on voulait lui demander quelles étaient les ressources indispensables en termes énergétiques, hein, pour de la région Aquitaine.
Ça, je ne sais pas si je pourrais répondre, mais c'était parce que tout à l'heure, il y a eu un appel du pied d'Alain Desfontaines qui disait sur les régions, la position d'Alain Roussel, président de l'ARF, tout ça.
Donc, attends, Luc, tu n'as pas bien compris la question. La question de Xavier, grosso modo, on sait tous, on a constaté que dans ton invitation au voyage, il manquait un slide sur les apports énergétiques essentiels. Et donc, on voulait qu'il nous en parle un peu.
Private joke, j'ai l'impression.
Oui.
Alors, effectivement. Je n'ai pas souhaité l'aborder parce que
c'est la coque.
J'ai substitué à la place un slide qui s'appelle Vignoble et photovoltaïque.
Voilà.
En fait, ce que nous avons visité. Le soir de notre atelier n'existe plus. Il est remplacé par une ferme photovoltaïque de 50 000 panneaux. Et je crains que nous n'ayons plus pour les prochaines campagnes de vendange de précieux liquides. Mais on aura de l'énergie à revendre. Ce sera pas mal. D'origine contrôlée.
Alors, sur le niveau de territoire pertinent et la région.
Mais Alain est là. C'était pour qu'Alain revienne. Il disait tout à l'heure, Alain Rousset se positionne plus
Aline
face
qui
à l'État
dans le moment, non
pour récupérer un certain nombre de compétences. D'ailleurs, sur ce volet-là, moi, je ne suis pas forcément... On a chacun nos rôles distincts dans nos assemblées respectives. Et je dirais que c'est le point de vue du CESR que j'exprimerai là. On n'est pas forcément sur tout à fait la même longueur d'onde. On pense que l'État a aussi son rôle à jouer. Et que ce n'est pas l'État l'État, y compris déconcentré, ou la décentralisation, c'est souvent l'articulation des deux. Et c'est plutôt ce... Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec des régions qui sont à 90%, je dirais, dans l'opposition, face à la majorité, il y a aussi des instrumentalisations de part et d'autre. Ça rend les choses difficiles. Enfin, on peut dire ça tranquillement, ici, hors caméra. Mais je pense qu'il est dangereux d'être dans une logique d'opposition systématique des deux. Et d'ailleurs, moi, je vois dans un autre champ qui m'intéresse, c'est les questions d'orientation professionnelle. Si on prend l'exemple du pôle Rhône-Alpin d'orientation, il y a une structure qui est co-présidée par la vice-présidente de la région en charge de l'orientation et la formation professionnelle et, à tour de rôle, le recteur de Grenoble et le recteur de Lyon. Je pense qu'il y a souvent l'intérêt d'avoir cette complicité-là. Mais je pense que la position d'Alain Rousset ne se résume pas à cette revendication face à l'État. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y a pas un intérêt pour les territoires. Mais lui, ce qu'il évoque souvent, c'est la notion de chef de file. C'est-à-dire comment on assure une continuité territoriale entre des niveaux infrarégionaux et des niveaux régionaux. L'acte 2 de la décentralisation pouvait, à travers la question de l'expérimentation, introduire l'idée qu'il y a certainement des chefs de file. Alors aujourd'hui, on se heurte d'une part au fait que la clause générale des compétences fait que sur tout un tas de sujets, chacun peut aussi y aller de son envie et de sa vision de l'intérêt territorial. Donc, quelle cohérence dans tout ça? La Constitution fait en sorte, c'est une bonne chose, mais aucune collectivité territoriale ne peut exercer la tutelle sur une autre. Mais derrière ça, est-ce que chacun va y aller son schéma de développement économique? La région a fait un schéma régional de développement économique. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Bordeaux est en train de concevoir un schéma métropolitain de développement économique. On a une chance, c'est que l'actuel président de la communauté urbaine de Bordeaux, Vincent Feltès, est l'ancien directeur de cabinet d'Alain Rousset. Et il se trouve donc qu'il a intégré une représentation de la région dans son schéma métropolitain de développement économique. Mais Alain Juppé, de son côté, a créé un machin qui s'appelle le Conseil de développement économique et social. Pourquoi je dis un machin? Parce qu'il n'est pas fondé par un contexte réglementaire, comme c'est le cas avec un conseil de développement associé à un pays ou une communauté d'agglomération, une communauté urbaine. Et donc, ce comité de développement économique et social de la ville de Bordeaux a lui-même fait un travail de prospective, et puis il pense s'intéresser aussi à la dimension économique. Si chacun y va de son schéma, et de sa lecture du territoire, eh bien, on va être dans une agrégation de lecture du territoire à travers des périmètres administratifs plus ou moins pertinents, et on ne va pas être dans une logique où il y a un territoire vécu qui relève de, je dirais, une géométrie administrative variable, c'est-à-dire qu'un même territoire, c'est à la fois une communauté urbaine, c'est un morceau de la région, c'est un morceau du département, etc., et que c'est plutôt cette logique territoriale qu'il faut organiser. Et je pense qu'une façon de l'organiser, c'est de faire aussi qu'à ces différents échelons de territoire, au-delà des assemblées d'élus, et là on fait la transition avec la question de la gouvernance, on a, à l'instar des pays, des conseils de développement, parce que je crois que lorsqu'on associe ce que moi j'appellerais les corps intermédiaires d'un territoire, on a là de la créativité. Et pour conclure, si on prend l'exemple du conseil de développement du Pays Basque, qui est associé au Pays Basque, qui lui est un pays qui relève non pas de la loi Voilnet 99, mais de la loi Pascois, Pays Pascois, l'époque d'avant, il y a eu très peu de pays pascois, il y a eu celui du Pays Basque, et puis il y en a eu en Bretagne aussi assez tôt. Eh bien, ça s'est développé parce qu'il y avait une volonté d'acteurs locaux de créer un pays et un conseil de développement qui fonctionne, et puis parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des moyens financiers qui sont attribués, alors que les pays, dans les contrats de projet État-région, par exemple, il n'y a plus de financement de l'ingénierie des pays. Donc je crois qu'il faut à la fois une volonté des acteurs et leur donner les moyens de fonctionnement, et ça, c'est un élément de la gouvernance territoriale. Excusez-moi,
alors,
j'étais trop long.
On en profite pour passer à la question suivante, qui est celle du débat citoyen. Partant du constat...
Si vous pouvez le faire, le débat citoyen, en un quart d'heure, c'est vraiment très bien.
Ah, c'est vrai aussi. Il y a aussi, il faut qu'on laisse un peu de place. Il faut qu'on laisse un peu de place pour Jacques Passemore à l'issue. On part d'un constat plutôt partagé d'un citoyen qui est déboussolé sur les questions d'énergie et d'innovation. Hier, on parlait, on posait la question de finalement, on ne savait plus à quel sein se vouer. Ça a été un peu le sujet sur la question de la taxe carbone, hein, où finalement il y a eu un certain nombre d'incompréhensions des Français. D'un côté, on les taxe, de l'autre, on leur fait un chèque ou un crédit d'impôt de compensation. Donc, petit problème de cohérence. Dernièrement, Jean-Louis Borloo a proposé un plan justice-climat avant Copenhague, visant à taxer les transactions financières, hein, pour aider les pays les plus vulnérables à se développer. Donc, ça peut être vécu comme une taxe supplémentaire. Pour le citoyen aussi, il y a assez peu de lisibilité sur les stratégies étatiques. On peut penser au développement du nucléaire. Et puis, des vérités, des contre-vérités qui dérangent ou pas. Hein. Bon, on a parlé du chauffage au bois comme solution idéale, mais bon, le chauffage au bois, on nous dit que ça produit aussi des particules. Le nucléaire, évidemment, c'est un sujet parfois tabou, mais on nous dit aussi que le nucléaire quatrième génération va consommer de moins en moins moins d'uranium et ne produira quasiment plus de déchets, donc c'est aussi une vraie question. Et puis enfin, bon, les conséquences sociales des choix retenus, hein, qui ne sont pas toujours très, très claires pour les citoyens. Donc, la question que je pose à la table ronde, hein, c'est quel est le niveau d'information du citoyen, quel est son niveau d'adhésion vis-à-vis des enjeux et des choix qui sont retenus, quelle est la place pour le débat citoyen dans les territoires, et comment on peut laisser exister des lieux de dialogue locaux. Alors, Dominique, qui souhaite intervenir.
Oui, je voudrais intervenir parce que j'ai assisté il y a très peu de temps à une présentation qui m'a assez séduite sur le sujet, sur justement cette affaire d'appropriation par le citoyen du débat sur l'énergie et les innovations qui vont avec aujourd'hui. L'idée, c'était de dire, plutôt que de partir par sur quelques projets vitrines ou emblématiques, et puis ensuite discourir d'entrée de jeu si on est pour ou contre le nucléaire, si on est pour ou contre tel ou tel type d'énergie éolienne ou photovoltaïque pour des raisons d'a priori ou de proximité ou de not in my backyard ou je ne sais pas, la démarche suivante était proposée, c'était de se dire que finalement, dans le gain qu'on a à faire sur le paquet énergie-climat, la première chose à faire, toute première chose à faire, c'est d'éveiller les consciences, de convaincre les gens que par leur comportement, ils peuvent, par une certaine forme de sobriété, exercer une réduction de l'énergie consommée qui peut aller jusqu'à 40-50%. Donc, on commence par ça. On commence par communiquer et parler aux citoyens de ce qu'il peut faire lui-même par ses propres, son propre comportement. La deuxième chose, c'est ce dont on a parlé hier soir à l'ANVI, c'est l'efficacité énergétique, ce qu'on peut faire sur le bâti. Et là, on voit arriver une bonne dose d'innovation. Hein. On en a vu quelques exemples hier avec le béton isolant, des choses comme ça, de nouveaux procédés de construction, bâtiments énergie positive, ainsi de suite. Troisième effort, on se dit qu'en ayant fait ce deuxième effort sur l'innovation, sur l'efficacité énergétique, finalement, on a réduit la quantité d'énergie au mètre carré, par exemple, mais qu'il faut aller plus loin et il faut s'intéresser pas seulement à l'énergie économisée, mais aussi au CO2. Parce que finalement, c'est bien en CO2 qu'on compte et pas en énergie. Donc la troisième étape, pour aller plutôt vers une comptabilité en CO2 plutôt qu'une comptabilité en énergie, c'est l'introduction d'une bonne part d'énergie renouvelable. Alors là, on est en plein dans notre sujet d'innovation, puisque la plupart des technologies développées sont... Et là, peut-être, on aborde seulement le sujet éventuellement de l'énergie nucléaire. Faut-il développer? Faut-il continuer? Faut-il continuer comment? Faut-il investir? Dernier effort, une fois qu'on a fait tout ça, on arrive finalement au socle presque irréductible de production de carbone dont on ne peut pas se passer. Sans aller à des limites inacceptables pour la population en termes de mobilité sur les transports ou en termes de qualité de la vie dans les bureaux ou à la maison. Et pour arriver à bilan neutre, on essaye de compenser cette dernière production de CO2, le cas échéant, en échangeant des tonnes de CO2 Union européenne contre des tonnes de CO2 reste du monde, pays émergents, où c'est peut-être plus facile de les produire. Moi, cette présentation m'a séduite parce que elle mettait les choses dans l'ordre. C'est presque une stratégie d'approche. On demande aux citoyens de faire l'effort de sobriété, de changer son comportement. Deux, l'efficacité énergétique. Trois, les énergies renouvelables. Quatre, la compensation. Et vous voyez que les éléments 2 et 3 sont très très fortement chargés d'innovation. Et je crois qu'à toutes les étapes, il faut beaucoup communiquer. À toutes les étapes, il faut beaucoup parler avec le citoyen. À toutes les étapes, il faut... Mais peut-être dans cet ordre, de façon à ne pas avoir d'entrée de jeu un blocage idéologique qui peut être sur le nucléaire, qui peut être sur telle ou telle énergie renouvelable. Voilà, c'était mon intervention pour éventuellement replacer les choses dans le débat énergie globale et puis dire qu'il y a peut-être une méthode pour éviter de bloquer le débat citoyen dès le départ.
Alors Alain.
Ouais, moi je voudrais dire que je ressens une grande difficulté. Je me mets à la place d'un certain nombre d'élus. À animer et à mettre en place un débat citoyen à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire à l'échelle un débat citoyen sur une politique à conduire à l'échelle d'un territoire. Et les exemples que j'ai en tête, c'est les territoires qui ont essayé de se lancer dans justement l'élaboration de plans climat territoriaux et qui se rendent compte que pour que le plan climat soit efficace, il faut communiquer très largement sur les enjeux, expliquer les enjeux, expliquer la vulnérabilité du territoire au coût des énergies fossiles, expliquer qu'il ne s'agit pas juste de contribuer à l'effort planétaire, mais prendre en compte l'avenir même du territoire dans lequel on habite et ses propres intérêts, c'est-à-dire que les intérêts économiques très directs pour les habitants à la mise en œuvre d'un plan climat. Et pour ça, il faut toucher du monde, parce qu'on sait que ça va, pour que ça soit efficace, il faut que maximum d'acteurs s'approprient les enjeux et quelque part fassent évoluer leur propre comportement. Et la réalité des choses, et là je ne sais pas s'il y aura d'autres exemples autour de la salle, mais la réalité c'est qu'on n'arrive pas à faire venir les gens. On n'arrive pas à faire du débat citoyen. Parce que ce sont toujours les mêmes qui viennent. On a quelques têtes de réseau, on a quelques associations, on a quelques élus locaux, pas tous, qui sont intéressés par des questions un peu transversales. Mais on n'a jamais, on arrive à avoir les gens. Sauf quand on parle d'un sujet très précis. La ligne THT qui traverse la Manche, là, on a les gens qui viennent. Mais dès qu'on essaie de parler de choses un peu globales sur les questions d'énergie et de climat, ou sur d'autres sujets, hein, pour parler de politique locale, il y a plein de sujets qui intéressent la population, et quand on essaie d'en parler à la population, on n'arrive pas à faire venir les gens. On n'arrive pas parce que c'est pas ancré dans la culture que de participer à des réunions publiques sur des choses comme ça. Et je voudrais dire aussi, ça, c'est pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que disait Luc, il y a quand même quelque chose de grave aujourd'hui, c'est que dans le projet de loi sur la réforme des collectivités, pour les territoires ruraux où on a besoin justement d'avoir de l'animation et des structures qui peuvent s'exprimer vis-à-vis des territoires, on supprime les conseils de développement. Quel est le signal qu'on envoie en faisant ça? Parce que le conseil de développement, c'est aussi des gens qui représentent des courants de la société civile. C'est des associations, c'est des gens qui peuvent relayer un certain nombre d'informations. On supprime ça, et quelque part, est-ce qu'on kidnappe pas un certain nombre de questions en se disant, bon, les élus vont traiter ça tout seuls, et puis la démocratie, au fond, on s'en fout un peu, quoi. Du moment qu'ils ont voté pour les élus, on considère que les citoyens ont fait leur boulot, ils n'ont pas besoin forcément d'en faire plus. Donc moi, je dis sur le débat citoyen, je trouve qu'il y a beaucoup de discours, mais quand on regarde concrètement comment le faire, comment l'animer, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, même avec plein de bonne volonté, parce que c'est très difficile de faire se déplacer les gens pour des sujets comme ça, quoi.
Bon. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment on pourrait faire pour que l'information du citoyen soit organisée de manière cohérente, pour qu'il identifie bien les questions d'intérêt national, régional et particulier.
J'aurais une autre question. Qui, dans la salle, pourrait me dire en 30 secondes quelle est la politique de l'État en énergie, dans le domaine de l'énergie? Est-ce qu'il y en a un qui lève le doigt? Non, je pose la question. Si vous l'avez entendu...
Jean-François, oui, j'imagine. Non, pas Jean-Olivier, mais...
Non,
oui.
Les orientations, elles sont très claires, elles sont très simples dans la loi. Hein? Ah non, il y a trois points. Qui pourrait l'exprimer? Si tu mets 30 secondes, je l'ai dit en 30 secondes. Il y a trois sujets. Énergie, environnement et intelligence. Énergie... On développe toutes les énergies non carbonées, tous les gisements d'énergie non carbonées, en commençant par le premier, qui est les économies d'énergie, et on se maintient l'option nucléaire ouverte. Deuxième point, il n'y a pas d'énergie environnement, il y a beaucoup d'énergie renouvelable, il n'y a pas d'énergie propre. Bon, chaque fois qu'on va sur des dossiers d'énergie, même renouvelable, on prend toutes les précautions nécessaires pour préserver les autres enjeux environnementaux. Troisièmement, sur l'intelligence, c'est tout ce qu'on a parler sur l'innovation ou sur les nouveaux instruments financiers qui sont capables, à travers les certificats d'économie d'énergie, les quotas de gaz à effet de serre, les obligations d'achat d'électricité renouvelable, les appels d'offres, etc. Il y a de l'argent qui va vers les territoires, charge aux territoires de les utiliser au mieux dans l'intérêt général de la France. Et c'est ça, si on résume les différentes lois qui existent sur l'énergie, c'est ça. Alors je repose la question, qui l'a entendu comme ça une fois? Personne, parce qu'il n'y a personne qui s'exprime dessus.
Oui, écoute, justement, donc ça, c'était la question qui pourrait s'exprimer.
Là, je vais être désagréable, par contre.
Parce que.
Oui. Désagréable. Il y avait une loi de l'énergie qui est la loi 2000, qui n'a pas été annulée. Elle a été amendée par quatre lois successives, qui avait promu des instances de concertation dans les CESR, justement. Cette disposition permettait d'avoir des débats au niveau de chacune des régions avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques autour de la question de l'énergie. En 2003, le gouvernement de l'époque à supprimer cette disposition-là.
Dis peut-être pourquoi.
Je vous laisse interpréter. Non, c'est une question, c'est une réponse politique, évidemment.
Parce qu'on serait venu à débattre. On serait venu à
débattre aussi, parce que ça, ce sont les orientations politiques, sur les grands principes, que je te rejoins. Mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on développe, je dirais, toute l'économie générale de l'énergie avec l'ouverture à la concurrence.
Là, qui fait débat entre les forces politiques. Climat, hein,
mais d'accord, mais loi, c'est, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas découpler tes finalités et la façon dont tu vas conduire les politiques. Donc tu es obligé de coupler les deux. Et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant à l'époque, dans les années 2000, d'avoir des instances où la société civile s'exprime sur ces deux composantes. Celles que tu exprimes, mais aussi les conditions dans lesquelles on y va, sur le plan économique, industriel et sociétal.
Philippe.
C'est bien la démonstration qu'il ne faut pas laisser ni à l'État ni à EDF le soin d'organiser le débat citoyen, parce que le débat citoyen, il n'a pas toujours besoin d'être organisé. Oui, attendez, quand on parle d'infrastructure et d'énergie, je crois que j'ai déjà dit ici, cité l'exemple de l'Ouest, il ne faut pas dire breton, mais enfin, les deux projets de centrales nucléaires ont échoué sur la pression citoyenne et pas dans le cadre de débat public, dans le cadre d'un rapport de force, parfois violent. Donc, si je dis cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a, pour toute infrastructure et tout projet, il y a, on assiste plutôt, au-delà des débats organisés, mais à une mobilisation citoyenne de type pétitionnaire. Les gens se regroupent pour contester des projets. Donc, ce sont les mêmes, souvent, d'ailleurs, qui pourraient défendre les énergies renouvelables et propres et qui combattent l'implantation d'éoliennes. Vous voyez, on est donc dans un débat citoyen qui est complexe. Et toute infrastructure... Alors, pour sortir de la question énergétique, le débat sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu le débat public, le grand débat public, comme pour le terminal méthanier à Bordeaux. Il y a eu toutes sortes de débats, un sujet sur ce territoire-là qui a fait autant l'objet de rencontres, de réunions, de débats, de manifestations, de délibérations des instances, je n'en connais pas un seul dans toute l'histoire qui ait fait autant l'objet de débats. Eh bien, aujourd'hui, les opposants réclament, qu'est-ce qu'ils réclament? Le débat. Voilà. Ils réclament un débat. Donc, voilà, tout ne se décrète pas. Et donc, ce débat citoyen, il est compliqué parce que on a parlé de logement hier. Et donc, Renard disait, oui, mais les maires sont sous la pression des citoyens parce que les citoyens ne veulent pas de densification urbaine. Et on peut aussi, nous, organiser le rapport de force. C'est-à-dire que moi, dans notre ville, nous, on organise le rapport de force de ceux qui veulent un logement contre ceux qui ne veulent pas qu'il y ait plus de logements. Et le débat public, on souffre d'une culture du consensus terrible dans toutes les organisations. D'ailleurs, tout le monde recherche le consensus, c'est une espèce de paix sociale. Non, la démocratie, c'est le conflit. C'est la confrontation de majorité et de minorité. Donc il faut accepter ces confrontations. Et effectivement, pour en revenir à ce que je te disais ce matin sur la place des gendarmes mobiles et des CRS à Saint-Denis, aujourd'hui, heureusement, ça se fait de façon un peu moins violente. Mais il faut accepter cette confrontation.
Antoine.
Je crois que la question du débat citoyen en France, il a un problème, je dirais, originel, qui est culturel, enfin, politico-culturel. On ne nous a pas habitués en France à avoir un débat citoyen de type proactif, c'est-à-dire un débat qui conduise le citoyen à réfléchir sur les changements souhaités, quand changement il peut y avoir. Le citoyen en France a été habitué à un débat de type réactif. C'est-à-dire, on lui plante quelque chose, on veut implanter une centrale nucléaire, ça réagit, il y a un débat citoyen. On veut implanter, je l'ai vécu encore, il n'y a pas longtemps, un incinérateur pour les ordures ménagères, il y a un débat citoyen, parfois violent, colonel. On veut... Je prends l'exemple d'urbanisme. Demain, je vais organiser dans ma commune un débat sur les formes urbaines, etc. Personne ne viendra. Maintenant, je présente le débat de manière différente. Je vais lancer une enquête publique pour réviser le PLU. Pourtant, on va traiter de la même chose. Ben, il y aura débat. Pourquoi ? Parce que là, le citoyen, il trouve un intérêt, j'allais dire individuel, malheureusement. Et c'est ce que je posais hier, ce débat entre... l'intérêt individuel et l'intérêt général. Et pour en terminer sur le débat sur les questions énergétiques, il n'y a pas de débat citoyen proactif là-dessus. Par contre, moi, je crois que le débat va venir. L'État l'a organisé. Il arrive, vous ne le voyez pas. L'année prochaine, on va recevoir tout notre taxe carbone. Et bien, vous verrez que le débat citoyen, il va venir.
D'accord. Alors,
il va falloir conclure ce débat citoyen.
Alors,
dans un rapport de force.
Alors, on va laisser venir le débat citoyen avec la taxe carbone. Et...
Je voulais juste ajouter mon grain de sel. Comme disait l'autre, tout a été dit, mais pas par tout le monde. Il me semble que... Enfin, je suis complètement d'accord avec cette idée que le débat citoyen, c'est de la controverse et pas du consensus a priori. Et ça, c'est très intéressant. Il me semble là-dessus que les organisations politiques font pas vraiment leur travail de fabrication... au sens où il me semble que les organisations politiques sont très focalisées quand même sur la conquête du pouvoir au niveau national, mais que localement dans les territoires les organisations politiques sont assez faibles comme producteurs de positions et producteurs de controverses locales, hormis effectivement dans les cas que tu décris de débats proactifs. Donc il me semble que là, il y a des choses à travailler. Je ne parle pas forcément des élus, hein, je parle des organisations politiques. Le dernier point, c'est que malheureusement, souvent, la controverse, elle n'a pas forcément lieu entre droite et gauche, ou pro ou anti. Elle a lieu entre nous-mêmes, d'une certaine façon, entre l'habitant et le citoyen. Je pense qu'un certain nombre d'exemples que vous avez donnés, c'est très exactement ça. C'est-à-dire que des choses qu'en tant que citoyen... disons soucieux du collectif ou disposant d'un certain nombre, niveau d'information, nous sommes prêts à accepter et qu'en tant qu'habitants, nous refusons. Donc d'une certaine manière, la controverse et le clivage, c'est en nous qu'il existe. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est presque à la fois enfin, très intéressant d'avoir des débats territoriaux, mais c'est aussi très piégeant parce que ça nous renvoie en permanence à notre condition d'habitant qui est pas forcément le meilleur point de vue, en tout cas qui peut pas être le seul, pour juger des questions d'aménagement et d'énergie.
Dans le même temps, il y a probablement une urgence au débat, puisque bon, quand on écoute Jacques qui nous parle de en fait quasiment de troubles à l'ordre public, hein, avec les questions de taxes carbone, de personnes qui vont être obligées de déménager parce que le coût de transport sera trop élevé par rapport à leur revenu. Donc ça, quand même, ça peut potentiellement modifier profondément le paysage des territoires et l'organisation de la société. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine urgence à la clarification et au débat ? Claire.
Ça n'a rien à voir sur le fond, mais puisqu'on parle d'organisation de débat en ce moment... Regardons juste comment est organisé le débat sur l'identité nationale.
Non, mais là, faut pas changer de sujet, mais quand même. Quoi.
Oui, mais enfin, on n'entame pas le débat là-dessus.
Voilà, mais bon, pensons-y, quoi.
Oui, c'est la question de l'identité comme habitant ou comme citoyen.
Lisez, oui, mais un mot de conclusion.
Moi, j'avais un mot de conclusion. Mais...
Non, mais avant qu'il parte.
Avant qu'il parte.
Non, moi je suis sur une conclusion qui est un peu opératoire. Je vais recontacter les membres de l'atelier, on en a parlé à quelques-uns, pour vous proposer de remettre un petit peu en musique ce qu'on a dit. On n'arrivera pas à mettre en musique tout ce qu'on a pu débattre, parce que je trouve que la qualité du débat, là, encore aujourd'hui, est à l'aune de ce qu'on avait pu avoir comme débat antérieur. Il faut qu'on trouve quelques lignes de force, quelques éléments de controverse. J'aime bien ce mot controverse parce que on réfléchissait tout à l'heure en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message clé de nos débats. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des messages clés. Il y a effectivement ces contradictions sur lesquelles le politique, pour parler comme Philippe, ou les territoires sont facteurs d'agrégation. Et donc je vais vous recontacter pour qu'on essaye d'écrire ça à quelques mains, de manière à pouvoir te livrer, Philippe, un document dont tu feras ce que tu pourras. Tu forcé d'y aller. Je voulais simplement vous dire que j'ai adoré m'occuper de cet atelier. Si un jour vous avez possibilité de le faire pour le compte de l'IEDAP, c'est un peu fatigant, mais c'est quand même vachement sympa.
C'est réciproque.
Bon, avant de laisser le mot de la fin à notre grand témoin Jacques Passemard, donc, je vais essayer de poser une petite problématique en rappelant notre voyage à Quita. Finalement, pour redire qu'on a vu des choses très prometteuses, à la fois ce voyage à Quita et sur la session de l'IEDAT. Moi, j'ai en particulier été impressionné par le laser mégajoule. Et là, on peut rebondir sur la question de l'information du citoyen. Qui sait qu'en France, nous avons cet outil et qu'il n'y en a que deux dans le monde, un aux États-Unis, un en France. Et sur place, les responsables de ce laser nous ont dit, mais pour la partie recherche privée, pas uniquement la recherche militaire, partie privée ou publique, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais on a, par exemple, on a l'intention de faire bouillir le vide. On va faire bouillir le vide. Et alors ça m'a fait rêver, quoi. Je me suis dit, mais c'est...
Et à la fin, ça sera plus vite.
Bon. Mais en même temps, combien de Français savent que ça existe? Bon, on a pu aussi voir d'autres projets, hein, comme je pense au Technopole Esther de Limoges aussi, qui était une visite très intéressante, hein, de ce point de vue. Donc vraiment des choses prometteuses dans les territoires. Dans le même temps, le sentiment d'une certaine anarchie des initiatives, de dispersion de la dépense publique. Une urgence qui est celle du réchauffement climatique, qui pousse quelque part à rechercher cet ensemblier. Alors, est-ce que la data pourrait, au niveau national, être cet ensemblier pour remettre de la cohérence? Et au bilan, c'est bien la question du pilotage qui semble essentielle. Alors c'est la question que je voulais poser à Jacques Passemard. Est-ce que le projet de réforme des collectivités territoriales et la redéfinition des attributions des différents échelons peut être l'occasion de clarifier le rôle des différents acteurs, y compris donc sur le domaine de l'énergie? Est-ce qu'on peut envisager la création d'une instance régionale de type comité régional carbone? Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion également d'organiser la nécessaire prise de risque du politique, qui est consubstantielle de l'expérimentation et de l'innovation? Et puisqu'on parle d'innovation, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que en termes d'innovation, la création de normes intermédiaires n'est pas aussi une piste pour permettre d'ouvrir des chantiers nouveaux. Voilà.
Merci. Et le bac, votre question sur la pertinence de la réforme des territoires, on le voit à l'évidence. Quand on arrive au bout d'un système, on voit qu'il est plus, le costume est plus adapté à l'exercice. Hein. Donc, moi, je mets beaucoup d'espoir dans cette réforme, même s'il y a quelques problèmes politiques autour. J'espère que ça va se régler et qu'on pourra avoir enfin un outil de décision qui évite qu'au rond-point du coin, là, du quartier, on ait 8 financeurs les uns derrière les autres, enfin, qui sous-entendent derrière des tas de procédures. Et pour nos projets, là, nos problèmes d'environnement, c'est encore pire. Parce que comme il n'y a pas d'antécédents, il n'y a pas trop de compétences, on se cherche, enfin, il faut vite refaire le cadre. Mais je voulais. Alors, n'ayez pas peur, hein, j'ai fait ça il y a deux jours, là, aux États généraux de l'industrie. pour parler d'innovation et surtout pour mettre en évidence tous les vecteurs qui sont autour du rectangle vert, c'est-à-dire tous les leviers, les moyens d'interférer en positif, j'espère, sur l'innovation en elle-même. Alors, on n'a pas le temps de le développer, je vais vous laisser le schéma, hein, mais vous pourrez le reconstruire, hein, c'est une vaste approche, une vague approche systémique avec, si vous voulez, l'approche d'un besoin, une mesure de delta, des principes de réalisme, est-ce que je peux aller en vélo sur la Lune, les moyens techniques, financiers que l'on trouve à sa disposition, la partie humaine avec les renforts possibles de l'extérieur, l'équipe interne, est-ce que j'ai des compétences, tous les stimulus qui font l'innovation ou l'innovateur, si vous voulez, d'avoir de la formation entrepreneuriale qu'on commence à voir apparaître dans les grandes écoles, mais ça peut être aussi le motif de l'argent, de la citoyenneté, que sais-je, de la gloire, la mise en projet qui est un métier en soi et qui n'est pas toujours présente dans ces projets, la motivation, alors la motivation c'est un aboutissement de tout ce parcours-là, mais c'est aussi à regarder dans un contexte, c'est la crise, est-ce que j'entreprends ? Nous sommes à plusieurs à entreprendre, à y aller. C'est plus motivant que si je suis tout seul à contre-courant. On réalise l'évaluation des résultats, qui est-ce qui me juge, mon banquier, mes actionnaires, l'administration, les processus d'apprentissage, ce qu'on pourrait encore aussi développer, comment je les traite, je peux même me faire aider là-dessus, comment j'enrichis mon expérience, qui va venir interférer après sur chacun de ces petits carrés. Donc je vous laisse, on va pas développer, on n'en a pas le temps. Je vais tout de suite passer à la partie plus de conclusion. Voilà. Alors, j'avais une question, parce que j'ai entendu ce matin, le mot innovation technique. C'est vrai que ça souligne, en fait, ce qu'on pourrait peut-être dénoncer, si vous me permettez, c'est que la France, c'est l'innovation toute technologie, et surtout technologie produit. Je m'entends amener par OSEO un projet sur de l'innovation financière ou sociale, vous allez vous faire ironner, ou sur le contenu des tuyaux de communication, qu'on en a parlé ce matin, que j'ai rajouté là. Même l'aspect produit est en soi suspect, c'est-à-dire que le dépôt de brevets en France, c'est 80% porte sur les produits et 20% sur les procédés. Au Japon, c'est l'inverse, hein. Pourquoi ? Parce qu'en brevetant sur les procédés, vous luttez contre la délocalisation, vous obligez à l'investissement. Et je rappelle qu'on est en carence sérieuse d'investissement en France et on va le payer assez rapidement. Alors, ne nous arrêtons pas qu'à l'innovation. Allons jusqu'au bout du processus, je l'écris un petit peu plus loin, hein, de l'idée au marché. D'accord ? De l'idée au marché. Il faut gérer l'ensemble et vous avez vu si on peut arriver à le faire en regardant la filière dans sa globalité. L'enjeu, la compétitivité, j'ai à dire la protection de la planète, la qualité de la vie, je ne vais pas vous la rejouer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos réflexions de ce matin et de cet après-midi. Bon, une des difficultés de l'exercice que j'ai noté, c'est l'analyse le niveau auquel on situe sa réflexion. On prend des données macro, là, des milliards de mégawatts et je ne sais quoi. Bon, bah, très bien, tout ça c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça donne sur le terrain, sur le citoyen, sur l'entreprise, sur nos territoires? Comment décliner tout ça par rapport à mon atypisme, par rapport à mes forces, mes atouts? Donc il y a au moins trois niveaux à prendre en compte, hein, les données macro, mondiales quand on parle de climat. Le pouvoir que l'on a et qui n'est pas toujours très évident, j'allais dire dans un niveau mezzo, c'est-à-dire le niveau intermédiaire auquel nous situons nos actions ici autour de la table à peu près tous. Et puis l'action en micro, c'est-à-dire l'action de l'entreprise, voire du citoyen. Donc cette déclinaison, ce niveau de réflexion, je ne motiverai pas, je ne pense pas, le citoyen lambda, si je lui dis qu'il y a tant d'émissions de CO2 en Chine et il faut que tu fasses un effort. Quoi. Enfin, vous voyez, il y a des disproportions comme ça qui entravent la communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut constater aussi dans ces débats d'aujourd'hui, c'est que tout est conflit. Tout est conflit ou tout est contradiction. C'est peut-être une réflexion un peu plus philosophique, si vous me la permettez, mais je suis toujours en balance entre mon égoïsme économique, l'intérêt collectif. Je suis toujours en balance, moi, dans ma réflexion, entre le maintien de l'emploi traditionnel sur mon territoire, dans la chaussure, etc., parce qu'il y a beaucoup d'emplois et des bouches à nourrir, et puis de prendre un risque social vers de nouvelles technologies qui peut-être vont échouer, peut-être vont m'amener dans le mur. Bon, mais il faut que quelqu'un prenne ce risque-là. Politique, financier, hein, voire même en formation, etc. Les contraintes coûteuses, les contraintes qui arrivent sur les entreprises, prenons l'exemple de Céveso qui me vient en tête, hein, qui ont fait que toute la chimie est partie à l'étranger où on ne s'était pas posé ces mêmes questions. Contraintes et compétitivité des entreprises. Politique court terme, long terme, ça a été évoqué sur la réforme des territoires. Est-ce que je privilégie l'argent à mettre dans le carrefour giratoire là, pour mes citoyens qui votent pour moi, ou est-ce que je vais acheter un tétra laser là, qui portera ses fruits dans 40 ans? Bon, la question se pose. Hein. Le territoire doit prendre, il y en a d'autres. À chaque fois, c'est conflit. Il faut que je cherche la bonne médiation. La discussion avec le citoyen est aussi dans ce cadre-là. Hein. Le territoire doit prendre des initiatives fortes tout en gardant la capacité d'adaptation. Alors, je l'ai peut-être personnellement un peu accentué en disant attention à ne pas trop parler de structuration qui fige un système, hein, et qui lui apporte des contraintes après avec lesquelles on est obligé de vivre, même des fois inconsciemment. Je faisais allusion au territoire administratif. Hein. Voilà, alors justement, pour faire le lien avec ces formats de territoire, bon, le territoire est-il pertinent pour tel ou tel projet ou découpage administratif, se justifie-t-il après coup pour faire une boutade? Exemple, la hiérarchisation de l'organisation de l'énergie. Hein, donc voilà, la réponse, mais elle est facile, hein, la taille doit correspondre à la maîtrise des modes de décision du système concerné. Il faut que dans le raisonnement, dans les gens qui travaillent sur un projet, on ait autour de la table ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir de décider et de faire bouger les choses. Sinon, on parle en l'air, quoi. On parle dans le vide, on s'est trompé, on ne fera rien du tout. Et sommes-nous nous-mêmes dans ce système concerné quand on provoque? Première remarque, je continue. Ici, alors, j'aurais pu me mettre en mode projeté, hein, c'était mieux. Alors, ne pas confondre l'administration des territoires et l'animation des territoires, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui l'a dit, non? Qui a dit ça? C'est Serge. Ou Alain? Je n'ai pas encore retenu tous les noms. Hein, je crois que c'est quelque chose d'important et c'est d'autant plus important que ces deux-là sont nés les agences de développement. Merci Alain. La gouvernance ne peut être spatiale. Hein, elle ne peut s'affranchir des acteurs privés du développement. Ça aussi, on n'est pas dans un état dirigiste. Hein, il faut quand même que ceux qui mettent la main à la poche, ceux qui prennent les risques au sens privé du terme, ben, soient des acteurs et qu'on trouve, nous, les moyens de les motiver, de les animer, de les informer, de les faire bouger. Donc, dans des ruptures importantes comme le développement durable, hein, de la cohérence, de l'information, alors ça a été effectivement, je crois que c'est très important, hein, jusqu'aux citoyens, avec la difficulté que chacun n'est pas un expert. Chacun n'est pas un expert. On a encore des manifestations devant le laser mégajoule, alors que c'est la bombe propre, c'est-à-dire qu'on ne sort que des neutrons qu'on arrête avec un mur en béton, hein, mais ça fait rien, on a quand même des manifestations de ce côté-là, ça a été évoqué pour l'éolien. Hein. Et j'ai retenu, moi, une chose intéressante quand même, si on va travailler sur ce niveau-là, c'est d'être en proactivité par rapport aux citoyens pour en faire un acteur. J'ai réservé comme dernière ligne de conclusion, il n'y a pas de territoire condamné, hein, ça a été demandé aussi, mais il y a des territoires sans projet, indépendamment de sa taille. Donc, ces territoires sans projet, les énergies nouvelles, l'environnement, le climat, sont des formidables opportunités pour une ambition de territoire, le montage de projets pour concrétiser cette ambition. Voilà. Merci de votre écoute. Merci.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup aux membres de l'atelier, là, qui ont fait un travail remarquable. Donc, je propose une petite félicitation collective à l'atelier. Voilà, vous nous laissez... précision sur les ateliers. Donc, vous nous laissez vos PowerPoints. Voilà. Vous n'oubliez pas que le produit de chaque atelier, c'est un texte. Donc, lisez la...